Nous sommes à présent en présence et en compagnie de Joanne Jaeger, coprésidente du Centre LGBT de Touraine. Bonjour Joanne.
Bonjour.
Alors avant de parler de vos actions, j'aimerais bien que l'on revienne en fait sur l'annulation de la marche contre les discriminations que vous deviez organiser samedi et qui a été finalement annulée parce que vous avez précisé sur vos affiches de com qu'il y aurait une zone de non-mixité. C'est à partir de là en fait que tout est parti, hein, c'est un peu à partir de là que...
Oui, c'est pas pour ça qu'on l'a annulée.
Voilà, donc le terme est parti, enfin la polémique est partie un petit peu de tout ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé, pourquoi vous avez décidé aussi d'annuler la marche?
Oui, bien sûr. Alors... Pour la zone en non-mixité, en fait, qui a été mise en place, à la base, c'est une demande de personnes qui subissent du racisme. Enfin, nous sommes donc un centre LGBTI, donc lesbien, gay, bi, transgenre, intersexe. Et on lutte contre les discriminations, et donc des personnes qui subissent des discriminations, donc du racisme, sont venues en fait nous trouver pour nous demander s'il était possible en fait de mettre en place un espace dans lequel ces personnes se sentiraient plus à l'aise, et nous, en fait... en tant qu'alliés de lutte contre les discriminations et dans un but de bienveillance, on a accédé à leurs demandes, en fait. Après, il y a eu effectivement une story qui a été publiée qui n'était pas du tout adaptée, qui est au contraire de nos valeurs, c'est-à-dire, nous, notre objectif, c'est de militer dans un but de sensibilisation, dans la non-violence et la bienveillance. Et c'est là, effectivement, que la fameuse polémique... a éclaté et s'est développé au fil des heures et des jours.
Alors il faut rappeler aussi que ce terme, une zone de non-mixité, c'est un terme qui existe depuis des années, c'est pas nouveau.
Oui, tout à fait, ça existe dans plein de domaines, notamment il y a des zones qu'on peut dire en non-mixité, c'est-à-dire des réunions par exemple de femmes qui subissent des violences et qui du coup se retrouvent entre elles pour pouvoir justement parler de ces violences dans un but finalement de partage d'expérience afin de justement éviter d'ajouter finalement à la violence que ces personnes ont déjà subie. Et effectivement, ça existe depuis un certain temps maintenant.
Mmh. Alors pourquoi du coup vous avez décidé d'annuler finalement la marche?
Et suite à la suite finalement de la publication, il y a une polémique qui a éclaté et à partir de là, nous avons commencé au fur et à mesure à recevoir des menaces d'un certain nombre de personnes, des menaces de mort, des menaces de violence. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à s'inquiéter parce que c'est la responsabilité de l'association, de la manifestation. Il était hors de question que nous puissions mettre en danger en fait, des personnes, sachant que l'objectif toujours pour nous, c'est la non-violence et la sensibilisation. Il était hors de question que pour cette journée qui est si importante, une journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la transphobie, la biphobie, qu'on peut étendre à toutes les LGBTI plus phobies, et finalement, cette manifestation dévie et finisse dans une foule de violence au regard des risques. Et donc, il n'était pas raisonnable pour nous de mettre en danger n'importe qui aurait souhaité s'y rendre.
Mmh. Alors, si celle-ci n'a pas pu avoir lieu, est-ce que la marche des fiertés aura lieu cette année?
Oui, la marche des fiertés est maintenue, elle est prévue, elle est maintenue pour l'instant, évidemment, nous ne sommes pas voyantes, on n'a pas vu dans l'avenir, mais pour l'instant, on la maintient, on a bon espoir et elle aurait lieu le 19 juin.
Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement l'importance de ces marches?
Eh bien, à la base, il faut se rappeler que les marches des fiertés, c'est né en fait suite aux émeutes de Stonewall. On s'inscrit en fait dans une histoire qui a eu lieu en juin avec justement une descente policière qui a eu lieu dans un bar qui servait de refuge justement pour toutes ces personnes qui étaient mises au banc de la société, donc on était aux États-Unis. Et des émeutes ont éclaté pour justement revendiquer une place au sein de la société. Et finalement, c'est toujours ça l'objectif de ces marches, c'est de proposer un moment de visibilité, de fierté, où toutes et tous, toutes les personnes, donc lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes, et toutes les autres minorités d'identité de genre et d'orientation sexuelle, puissent sortir sans avoir peur pour revendiquer leurs identités, aussi éprouver un sentiment de fierté, et finalement de se retrouver toutes et tous ensemble. Il faut savoir que l'espace public, c'est un espace qui peut être violent, qui peut être dangereux. Les personnes LGBTI+, sont particulièrement sujettes à l'isolement, aussi aux crises suicidaires, et c'est pour ça que c'est important d'avoir ces moments où on se sent bien et on est heureux, heureuse de pouvoir sortir toutes et tous ensemble avec les alliés pour revendiquer une place, pour donner de la visibilité, pour toujours donner de la visibilité aussi aux revendications.
Alors justement, on va parler un petit peu plus de vos actions au centre LGBTI de Touraine. Vous mettez en place donc différentes actions. Il y a des permanences d'accueil, d'écoute. Expliquez-nous un petit peu comment cela fonctionne.
Bien sûr. Alors, le centre LGBTI, en fait, on propose plusieurs actions. Donc, il y a l'action dont on vient de parler, c'est-à-dire la marche des fiertés, qui s'associe aussi avec un pôle d'action, on va dire, aux militants politiques, donc l'organisation de marches, l'organisation de revendications. On a aussi un pôle social qui est donc composé, comme vous le disiez, des permanences d'accueil et d'écoute, qui sont des temps de parole, en fait, de discussion collectif. Donc, c'est-à-dire que nous, en fait, nous accueillons, en ce moment, c'est au centre Léo Lagrange. D'habitude, c'est à notre local, mais donc on remercie à la mairie de nous prêter ce centre social pour pouvoir accueillir notre public. Donc, c'est des temps en fait de discussion collective sur différents sujets. L'objectif, c'est toujours de lutter contre l'isolement et lutter contre le suicide, évidemment, tout en proposant de créer un lien social. Il y a un autre versant, c'est les entretiens individuels, c'est-à-dire qu'on propose aux personnes la possibilité, enfin pour toutes les personnes qui le souhaitent, en fait, des entretiens individuels et confidentiels pour pouvoir finalement discuter, proposer un accompagnement. Et nous avons aussi les breakfast meetings qui sont des moments en fait où nous accueillons des demandeurs, demandeuses d'asile et en fait nous les accompagnons sur leurs procédures, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont fui des pays dans lesquels en fait ils peuvent être condamnés pour leurs identités de genre, orientation sexuelle, mais même aussi torturés, comme il y en est encore le cas, sans que ça soit la loi, mais plus les règles sociales. Et nous avons un dernier pôle qui est donc les interventions en milieu scolaire.
Voilà,
justement, je pense à mes collègues qui interviennent aujourd'hui justement dans différents établissements pour justement sensibiliser les jeunes à la lutte contre les discriminations, lutte contre le harcèlement scolaire et toutes les violences qui peuvent avoir lieu, mais aussi sensibiliser autant que possible et montrer aussi aux jeunes LGBTI+, qui peuvent se poser des questions, être en questionnement sur leurs identités de genre ou orientation sexuelle pour leur dire que c'est normal, que tout va bien et qu'ils, elles ne sont pas seules en fait.
Vous intervenez particulièrement en collège, en lycée ?
Oui, tout à fait.
Voilà, et ça fait à peu près trois ans, je crois, que ces actions ont lieu. Les interventions au milieu scolaire, ça fait combien de temps à peu près que c'est mis en place ?
Je ne saurais dater exactement, mais effectivement, en tout cas, c'est une mission qui nous tient beaucoup à cœur. On a la chance d'avoir le soutien d'institutions aussi, et on remercie encore tous les établissements qui nous font confiance pour lutter, pour proposer justement cette lutte contre les discriminations et toute cette place qui nous est laissée à la sensibilisation qui est fondamentale.
Du coup, oui, agir en milieu scolaire, c'est indispensable justement pour lutter contre ce genre de discrimination ?
Oui, oui, évidemment, comme je disais, il y a le harcèlement scolaire qui existe, contre lequel on doit lutter, et ça vaut pour toutes les minorités et pour toutes les discriminations, que ce soit le racisme, les LGBTI-phobies, mais il y a aussi la grossophobie. Il y a tout un travail à faire dessus.
Alors, vous avez mis aussi en place des actions de prévention santé. Un mot, justement, sur ça aussi.
Oui, alors, en ce moment, c'est un peu compliqué, forcément, mais on remercie là-dessus tout le soutien du planning familial et aussi de Aids Centre, qui le CARUD, qui porte aujourd'hui ces actions. On essaye de les relier au maximum et on va continuer de travailler, en fait, tout ce lien autour de la prévention de la santé sexuelle, lutte contre les VIH, lutte contre les IST, MST et les hépatites. Parce que c'est quelque chose de très important, la santé sexuelle, qui ne concerne pas que les personnes LGBTI+, mais nous avons bien évidemment un rôle là-dessus en proposant justement une facilitation à l'accès à des protections sexuelles. Donc au sein du centre LGBTI, nous avons donc des préservatifs internes, externes, mais aussi en parlant par exemple de la PrEP, qui est de plus en plus développée, et facilitant toujours cet accès au dépistage.
Alors, vous avez récemment déménagé, ça c'est un peu une actualité aussi.
Oui.
Vous êtes un peu plus en centre-ville de Tours, c'est un moyen d'être un peu plus visible ?
Alors, c'est un moyen d'être un peu plus visible, mais à la base, si nous avions demandé en fait un local plus grand, c'est parce que justement pour nos permanences d'accueil et d'écoute, qui est l'action un peu fondamentale du centre, notre ancien local était devenu beaucoup trop petit, c'est-à-dire que nous avions environ une trentaine de personnes, sachant que nous en avions de plus en plus. notre local commençait à être étroit, et c'était d'autant plus le cas avec la crise de la Covid-19 qui imposait un certain nombre de personnes. On s'est retrouvé en fait à devoir refuser du monde. Ça devenait évidemment très très problématique quand on est une association avec un pôle social de devoir refuser du monde. Et c'est pour ça que nous avons eu, nous remercions aussi la municipalité de nous avoir proposé ce nouveau local qui est effectivement plus visible, mais aussi beaucoup plus grand. Il nous permettra de mener plus sereinement toutes nos actions sous toutes leurs formes.
On peut rappeler l'adresse peut-être ?
Oui, alors c'est 11 bis rue des Tanneurs.
Alors au sein de l'association, vous êtes des bénévoles, des salariés, comment ça fonctionne ?
Eh bien, nous avons la chance d'avoir une salariée qui est en CDI. Nous avons aussi la chance de pouvoir compter chaque année sur une service civique. Et nous avons aussi évidemment la chance d'avoir de nombreuses bénévoles qui se donnent du mal pour essayer de monter des actions et lutter contre les discriminations.
Mmh. Eh bien, merci beaucoup, Joanne.
Merci à vous.
D'avoir répondu à nos questions. On va continuer cette émission et on va écouter une autre carte postale sonore. Il s'agit cette fois-ci de Coming Out de Kim Dos Vivos.
Finalement, ça s'était plutôt bien passé. Évidemment, sa mère avait fondu en larmes. Mais comment vais-je annoncer à mes copines du yoga ? Puis elle avait ajouté en sanglotant : c'est de ma faute, j'aurais dû m'en douter, tu aimes tellement le football. Son père s'était énervé : comment as-tu pu nous mentir si longtemps ? En réalité, il n'avait jamais menti. Il n'avait juste jamais démenti. Il n'avait pas démenti quand on l'avait appelé PD. C'était au camp scout. Les autres garçons le trouvaient bizarre, parce qu'ils ne considéraient pas quelqu'un qui pète comme la meilleure des plaisanteries possibles, et ne pensaient pas que relire 16 fois le même magazine porno était un passe-temps passionnant. Alors, quand Enguerrand lui avait dit « Mais tu serais pas pédé, toi ?», il avait juste répondu « Désolé, t'es pas mon genre. » Deux jours plus tard, toute l'école, tout le village, toute sa famille avaient été au courant. Mais il n'avait pas démenti. Ceux qui l'évitaient désormais étaient des gens par lesquels il était assez fier d'être évité. Ça lui permettait donc de faire un tri assez efficace. Il n'avait pas démenti, évidemment, quand Jessifer s'était déshabillée devant lui. La plus belle fille de l'école, tous les garçons prétendaient se l'être faite. Presque tous mentaient. Il avait juste fait semblant de détourner le regard, mais n'en avait pas perdu une miette. Il avait bien failli tout avouer. Deux heures plus tard, quand il lui avait demandé « Mais... tu n'as jamais eu envie d'essayer avec une fille ?» Mais il avait bien fait de ne pas le faire. Et puis depuis, il avait entendu cette phrase bien souvent, avec à chaque fois les mêmes agréables conséquences. Et il n'avait jamais démenti devant ses parents, pour ne pas leur faire de peine. Ils étaient si fiers d'avoir un fils homo. Du jour où ils avaient appris sa prétendue préférence, il avait enfin existé à leurs yeux. Il ne jouait pas de harpe dans un groupe de post-wavecore comme son frère Anaximandre. Il n'avait jamais été en prison pour outrage à un agent comme sa sœur Clytemnestre. Il était étudiant en économie et capitaine de son équipe de rugby. Il n'avait pas grand-chose dont ses parents puissent se réjouir jusque-là. Alors il faisait semblant. Il avait même demandé à un ami, juste un soir ou deux, de jouer le rôle de son amoureux pour faire taire un peu les « Mais quand vas-tu nous présenter ton copain ? T'es quand même pas hétéro !» Et là, il ne pouvait plus mentir. « Papa, maman, j'ai rencontré quelqu'un. J'aimerais vous la présenter. » Ce n'était pas si dur à dire.